With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Difficile d'échapper, même avec toute la mauvaise volonté du monde, à ce qui est en train d'agiter notre bonne vieille 5ème République, à cet étrange balai de gilets jaunes qui mettent sous pression le gouvernement et surtout le chef de l'État, bref, à ce petit parfum insurrectionnel qui flotte dans l'air.
La boutique Dior.
Libérez la Bastille! Mettez-le à couvert!
Dites aux gens d'avancer, putain!
Voilà, c'est des flics en civil qui cassent!
Macron, à la base, ça devrait être le président du pays. Il a pas les. Pour être président, faut avoir une paire de. Excusez-moi de l'expression, mais il est même pas capable de. Une femme. S'il n'y arrive pas, il m'appelle, je vais la.
Faut péter!
Alors on ne va pas faire semblant de redécouvrir la roue, des manifs tendues, voire très violentes, des mouvements sociaux qui durent, il y en a eu beaucoup, on a déjà connu, mais celui-là a ça de particulier qu'il semble acter la fin d'un système, celui de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, ceux qui ont l'habitude de porter auprès du pouvoir les revendications du peuple, précisément je pense aux syndicats, car quand on a grandi comme moi entre les années 80 et 90, on a pour habitude de voir en tête des cortèges, sur les plateaux de télé, ses représentants incarner les contestations du moment. Sauf que là, pas du tout. Et d'ailleurs, les débordements auxquels on assiste sont sans doute en partie liés à l'absence de structures type service d'ordre pour encadrer les mobilisations. Mais au-delà des faits bruts, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le syndicalisme français est arrivé au bout de son modèle? Et d'ailleurs, dans quel état est-il à l'heure actuelle? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Vous savez qu'on a un petit tropisme dans ce podcast, on aime bien soumettre nos interrogations à des chercheurs, à ceux qui scrutent tout ça au quotidien, détachés des préoccupations strictement liées à l'actualité. Et donc on a sollicité Rémi Bourguignon, il est maître de conférence à l'IAE Paris, spécialiste des questions syndicales. On l'a invité à venir nous voir et pour démarrer, je lui ai posé cette question toute bête, c'est quoi la réalité du syndicalisme en France aujourd'hui ?
La réalité syndicale, elle est faite de plein de paradoxes en France. D'une part, on est le pays avec le plus d'organisations syndicales et en même temps avec le moins de syndiqués. Donc ça, c'est déjà un fait assez marquant. Donc beaucoup d'organisations, peu de syndiqués. C'est-à-dire que chacune de ces organisations, finalement, si on prend un regard quantitatif sur les adhérents, représente très peu de salariés. Et puis un second paradoxe, c'est qu'il y a très peu de syndiqués, mais par contre, les syndicats protège quasiment tout le monde. En termes statistiques, on distingue souvent le taux de syndicalisation, la part des gens qui sont syndiqués, et le taux de couverture syndicale, c'est la part des gens qui sont couverts par un accord syndical. Eh bien, si on prend ce deuxième indicateur, ce sont 98% des Français qui sont protégés par l'action syndicale. Donc ça, c'est un second paradoxe. Quasiment tous les Français profitent de l'action syndicale, mais très peu y contribuent par leur engagement, par leur adhésion. Ce qui pose évidemment derrière, très vite, plusieurs types de problèmes, des problèmes de financement, bien sûr, et puis des problèmes de légitimité ou de représentativité, puisqu'à ce moment-là, on se demande qui sont ces 8% de syndiqués qui, finalement, décident pour 98% des travailleurs.
Mais justement, est-ce que ce décalage entre la couverture syndicale dont vous parliez et le faible taux, finalement, de syndiqués, tout simplement, est-ce que ça ne crée pas un dérèglement en termes d'action possible? Est-ce que ça n'explique pas aussi une forme de, on va dire, de décalage dans l'action syndicale?
Bien sûr, et on le voit d'ailleurs au fil de l'histoire, ils ont de plus en plus de difficultés à mobiliser. On voit bien les dernières tentatives de mobilisation qui ont été plutôt des échecs et les syndicats qui se replient finalement sur d'autres formes d'actions syndicales, des actions syndicales qui sont peut-être plus intégrées à l'appareil d'État, par exemple, si on parle de négociations nationales, mais également avec des compromis, si on regarde dans l'entreprise elle-même, parfois avec des DRH, mais qui peuvent se passer un peu loin des salariés, donc qui rend finalement l'action syndicale, le dialogue social d'une manière générale, assez peu lisible pour la grande majorité des travailleurs.
Est-ce que ça crée, entre les travailleurs et les syndicats, on va dire, pour le coup, leurs vrais représentants, les personnes qui mènent ces négociations, est-ce que ça crée une rupture, quelque part, une fracture ? Est-ce qu'elle existe ?
Alors, une distance en tout cas, il suffit de regarder les sondages et ce que disent les gens interrogés sur les organisations syndicales. Ils sont autour de 30% à faire confiance aux organisations syndicales et suivant des statistiques un peu plus récentes, 80% des travailleurs disent que le dialogue social, c'est pas efficace, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a effectivement une distance qui s'est créée, et notamment avec des choses. Et d'ailleurs, on voit bien là qu'il y a une incompréhension des Français. Ce qui est reproché aux organisations syndicales, très majoritairement, c'est d'être excessivement politisé. Donc, les syndicats seraient trop politisés. Donc, c'est pour ça que les gens s'en détournent. Et d'ailleurs, on pourra faire le lien avec les mobilisations actuelles, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté d'être dans un mouvement qui ne serait pas politique. Mais en fait, quand on fait quelques comparaisons internationales, c'est factuellement faux. Les syndicats français sont parmi les moins politisés du monde, puisqu'il n'y a pas de lien organique entre les partis politiques et les organisations syndicales. Ce qui n'est par exemple pas le cas dans les pays nordiques, qu'on prend souvent comme exemple, avec des liens très très forts entre les partis sociaux-démocrates et les partis et les syndicats, ou également chez les Britanniques, puisque le Labour et le TUC, hein, le syndicat britannique, eh bien, il y a des liens qui sont très très forts. Quand on est adhérent de l'un, on est adhérent de l'autre presque automatiquement. Donc en fait, derrière politisation, il y a quelque chose d'un peu ambigu. C'est-à-dire que c'est pas politisation au sens de lien avec des partis politiques, mais ce serait, ils auraient des positions et des visions sur le monde peut-être qui primeraient sur des mots d'ordre plus quotidiens, plus concrets, etc.
Est-ce que c'est lié au fait que les représentants syndicaux, les figures majeures de ces partis, qu'ils soient secrétaires généraux, les personnes qui mènent les négociations, sont identifiées comme faisant finalement partie de l'appareil politique français, comme ce sont eux qui vont être reçus à Matignon pour les négociations entre syndicats, patronat et gouvernement. Est-ce qu'ils sont finalement identifiés comme faisant partie de ce système, pour employer un mot qu'on entend souvent dans les manifestations ?
Ils participent clairement de la régulation, donc ils sont intégrés dans ces relations avec les gouvernements, avec l'État. Pour autant, on ne peut pas tellement les mettre dans le jeu politique, parce qu'on n'a pas d'exemple de leaders syndicaux qui seraient passés du monde politique au monde syndical,
etc. Je parle en termes de représentation.
Voilà, oui, j'entends bien. Mais on n'a pas vu des gens qui sont passés de l'un à l'autre. Oui. Donc la confusion entre les deux mondes, ou une espèce de porosité, elle n'existe pas vraiment. Et éventuellement, ce qu'on peut observer, c'est parfois des syndicats un peu embêtés, suivant les majorités politiques, se disant, est-ce que mon action, elle ne doit pas dépendre du type de majorité que j'ai en face de moi ? Il y a des syndicats qui expliquent très clairement qu'elles doivent se déconnecter de ces logiques-là, mais ça peut être perçu, mais clairement, les syndicats sont partie prenante de la régulation, sont intégrés dans ce qu'on appelle la démocratie sociale. On parle plutôt de dialogue social quand on est dans l'entreprise, mais c'est un petit peu la même chose. Ils participent de la régulation. Et en ce sens-là, ils nouent des compromis avec des gouvernants. Alors, dans l'entreprise, avec le DRH, le gouvernement, quand on est sur des négociations nationales, et donc, effectivement, ils participent de la régulation. Et donc, s'il y a un rejet global de la régulation, évidemment, ils tombent avec, quoi.
Ce discours anti-système, est-ce qu'il n'est pas le signe aussi d'une forme d'essoufflement du modèle syndical sur lequel s'est bâti la lutte sociale en France ? Est-ce que le système syndical, de la représentation syndicale, n'est pas arrivé finalement un peu à bout de souffle ?
Alors, dans l'absolu, je sais pas, mais en tout cas, si on regarde comment évoluer cette démocratie sociale ou ce dialogue social, on peut comprendre pourquoi il y a du décalage et pourquoi c'est devenu illisible pour un certain nombre de Français, pourquoi ils ne se reconnaissent plus dedans. Parce que dans ce travail de régulation dont on parlait à l'instant, finalement, les syndicats vont nouer des compromis. Alors avec pas des partis directement, mais avec des gouvernements. Mais à chaque fois, on voit bien, c'est pas avec tout le gouvernement, c'est avec une partie du gouvernement. Mais dans l'entreprise, c'est un petit peu pareil. On voit parfois des coalitions qui peuvent surprendre entre un DRH et des organisations syndicales pour mener un certain nombre de politiques sociales que les deux considèrent utiles. Et du coup, les clivages ne sont pas les clivages classiques. Notre système historique, c'est une vision d'opposition assez frontale horizontale, capital, travail, et finalement la réalité de la régulation ne colle pas à ça. Et donc on n'a pas cette opposition des travailleurs contre les dirigeants d'entreprise. En fait, on voit bien qu'il y a des fractures dans le camp des travailleurs, qu'il y a des fractures dans les équipes managériales. Et on a la même chose au niveau national, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des fractures au sein même des majorités, et on voit qu'il y a des fractures entre les organisations syndicales. Donc si on a cette lecture en disant l'opposition capital-travail comme deux camps homogènes, etc., quand on observe la réalité, ça colle pas. Et donc certains ont des lectures en disant ces compromis, c'est peut-être plutôt de la compromission, c'est finalement on va s'arranger parce qu'on y a peut-être des intérêts particuliers, et donc on ne traite plus les intérêts des travailleurs. Et on entend cette petite musique, et qu'on retrouve dans le champ politique avec ce populisme-là qui arrive, finalement le peuple contre les élites. On essaye de retrouver un clivage binaire entre des dominants, des dominés, sauf que la réalité de la régulation ne colle pas à ça, et qu'elle est beaucoup plus complexe. Et on ne sait plus la mettre dans le cadre, et ça pose des difficultés de lisibilité de gens qui s'y reconnaissent pas. Et d'ailleurs, on voit bien là sur les mobilisations actuelles, il y a un rejet très fort des organisations syndicales. On l'a même vu là sur les représentants là qu'on est en train d'essayer de désigner. Il y en a un qui avait une étiquette syndicale, il s'est fait sortir très très rapidement. Ouais. Donc c'est vraiment une volonté de les écarter, parce qu'elles semblent associées aujourd'hui à plus de compromission que de compromis. Et on essaye de retrouver ce clivage. Donc tous ceux qui ne collent pas à ce clivage, sont écartés du jeu.
Comment elle s'est installée, cette désyndicalisation, quelque part, de la France dans le temps? Est-ce qu'il y a eu comme ça des marqueurs qu'on a, pu retracer un petit peu dans l'histoire, la désaffection des salariés et des employés pour le syndicalisme?
Alors, la France a toujours été un pays peu syndiqué, compte tenu de son histoire. C'est même à l'époque où il y avait des taux de syndicalisation importants, la France était quand même très très bas dans les comparaisons internationales. Si on prend les années 50, par exemple, les années 50, c'était le moment où la syndicalisation était très forte. En France, c'est 30%, donc c'était quand même déjà minoritaire. Et ça, c'est lié à notre histoire. On a une démocratie en France, ou un processus de démocratisation en France un peu particulier, qui s'est fait contre les corps intermédiaires. Et contre les corps intermédiaires, c'est large, c'est pas que les syndicats, mais c'est aussi le monde associatif, etc. Il faut attendre 1901 pour pouvoir se constituer en association, ce qui est quand même extrêmement tard par rapport à un certain nombre de pays qui, eux, se sont démocratisés en reconnaissant les corps intermédiaires. Donc cette histoire a amené, faut pas leur faire toute l'histoire, mais ça a amené cette pensée du syndicalisme révolutionnaire, donc par nature minoritaire, parce que engagé dans l'action directe, etc. Alors on en est sorti évidemment avec le temps, mais on est resté avec l'image d'un syndicalisme quand même de militants. On n'est pas dans un syndicalisme d'adhérents en France. On ne considère pas que la majorité des gens doivent être syndiqués. D'ailleurs, aujourd'hui, on regarde leur légitimité non pas au nombre d'adhérents, mais aux élections. On a fait le choix de regarder les élections, les votants et pas les adhérents, parce que on continue de penser que l'adhérent est un militant, et donc c'est un syndicalisme minoritaire. Alors après, la chute du taux de syndicalisation, elle s'est faite plutôt progressivement, mais là-dessus, la désyndicalisation n'est pas spécifiquement française, on l'a vu dans quasiment tous les pays, et en France, ça s'est accentué finalement avec la généralisation de la protection sociale et la protection des droits, ce qu'on appelle l'extension de la négociation. Aujourd'hui, tout salarié bénéficie d'un accord syndical, qu'il soit syndiqué ou non. Tout salarié bénéficie de la protection sociale, qu'il soit syndiqué ou non. Ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays. Si vous prenez le pays qu'on prend souvent en exemple d'Europe du Nord, eh bien, si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas les mêmes allocations chômage si vous êtes licencié. Si vous êtes chez les Anglo-Saxons, eh bien, si vous n'êtes pas syndiqué, vous ne bénéficiez pas de la négociation syndicale. Et donc, ça crée des incitations très fortes à se syndiquer.
Est-ce qu'il y a un risque pour l'existence même de ce modèle syndical en France? Est-ce qu'il peut potentiellement disparaître?
Oui, d'ailleurs, ça a été dit très clairement par un des leaders syndicaux, qui est Laurent Berger, qui l'a dit il y a quelques mois. Il a dit que les syndicats peuvent mourir. Il le disait à ses confrères des autres organisations syndicales qui appelaient à la mobilisation et qui ont fait une démonstration, ce qu'il appelait une démonstration de faiblesse. C'est-à-dire qu'en voulant mobiliser, mais en montrant qu'on n'y arrive pas, eh bien, on montre qu'on n'est pas efficace.
Oui, c'est une preuve d'inefficacité.
Et, voilà, et ce qu'on voit aujourd'hui à travers les gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui disent on ne va pas passer par les organisations syndicales, ça ne marche pas, ce n'est pas efficace. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit des choses se structurer. Alors là, on est dans une période intéressante et un peu critique. Finalement, quelque part, le gouvernement reconnaît les gilets jaunes. puisque ils se mettent à discuter avec. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui finalement viennent prendre la place de ces vieux acteurs qui sont les syndicats. Un peu comme en politique, on a vu les mouvements vouloir se substituer aux partis politiques. Bon, si on poursuivait sur le politique, on voit que finalement ces mouvements ressemblent de plus en plus à des partis.
Oui.
Et qui finissent par rentrer dans le système institutionnel. Les Gilets jaunes sont en train de s'organiser avec des logiques de représentativité et probablement qu'ils vont finir par ressembler à des espèces d'organisations syndicales. Donc on est à un moment un peu critique. On peut imaginer qu'il y a un remplacement, une disparition des syndicats, mais en même temps, on voit bien que les syndicats aujourd'hui apparaissent, alors on va voir si ça prend ou pas, mais apparaissent comme une voie de recours pour venir aider le gouvernement, pour essayer de reprendre un peu la main sur ce mouvement et faire rentrer dans les institutions pour pouvoir dialoguer et trouver une issue. Donc là, on verra si c'est l'occasion pour les syndicats de pouvoir revenir dans le jeu, mais ils peuvent mourir, ça c'est très clair. Alors est-ce que tout le syndicalisme mourra ? On ne sait pas. Par contre, il peut y avoir des organisations qui meurent, et c'est d'ailleurs un projet qui est très explicite depuis une dizaine d'années, puisqu'on a changé un certain nombre de règles sur la représentativité syndicale. Cette réforme de 2008, donc il y a 10 ans, visait explicitement à réduire le nombre d'organisations syndicales. Donc il y a une volonté de certains de faire mourir des organisations, pas forcément tout le syndicalisme.
Oui, parce que on se dit, en voyant les choses d'un peu loin, que le système, quelque part, est plus fort que la volonté de changement, et que nécessairement, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait des représentants, des corps constitués, possibilité d'organiser les choses, et que donc, finalement, ça ne sera qu'une substitution de forme.
Ouais. Alors, avec des organisations qui pourront fonctionner différemment aussi, parce que ce que montrent aussi les affaires récentes dans le monde syndical, je pense à quelques années, la CGT, qui a eu quand même quelques difficultés avec un dirigeant qui a été pris pour des affaires financières. Maintenant, FO, avec ce dirigeant qui se retrouve contraint de démissionner très rapidement pour des pratiques internes qui sont plus que discutables. Ce que révèlent ces affaires, c'est quand même qu'il y a un problème de gouvernance interne à ces organisations syndicales. Elles n'arrivent plus à faire émerger des leaders aussi légitimes au sein des appareils. Donc, bien sûr que si d'autres mouvements apparaissent, spontanément. Là, c'est les Gilets jaunes. Il y a quelques années, on a eu Nuit Debout, qui prétendait aussi être un mouvement spontané, non organisé, etc., et qui a fini par disparaître parce qu'ils n'ont pas su franchir cette marge de l'organisation en disant « Mais le spontanéisme, c'est bien au départ, c'est bien pour attirer, c'est bien pour avoir du monde, mais à un moment donné, ça ne tient plus. » Parce que les mouvements spontanés, c'est sur des petits groupes. On connaît bien le problème de la démocratie directe, ça marche sur des petits groupes. Mais dès qu'on commence à grossir, et si on a l'ambition d'être un peu important, eh bien, il faut s'organiser. Et donc, la question, c'est quand on s'organise à ce moment-là, sur quel principe de gouvernance, quelle organisation, etc. Donc, le problème n'est pas de savoir s'ils vont s'organiser ou pas s'organiser, c'est comment ils vont le faire, suivant quel principe, avec quel leader, suivant quelle ligne, etc.
Mais est-ce que ça vous paraît possible, plausible, qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui justement s'est construit en opposition, on va dire, à ce système de représentation, de corps constitués, de corps intermédiaires, puisse finalement se transformer lui-même en corps intermédiaire ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, quelque
part ? Alors, c'est contradictoire, mais ce n'est pas impossible. Alors, encore une fois, Nuit Debout, ça n'a pas fonctionné.
Oui.
Y a eu, et la question était posée à un moment donné explicitement, et à l'époque, c'était François Ruffin qui était un peu le tenant de cette ligne-là, en disant, il faut organiser le mouvement. Il avait essayé de faire des liens, d'ailleurs, avec la CGT à ce moment-là, en disant, il faut rentrer dans les structures, et maintenant, il faut s'organiser. Et puis, ça a été rejeté par une grande majorité des gens de Nuit Debout, qui disaient, ben non, on s'est construit contre les organisations, donc on veut continuer à être un mouvement spontané, non organisé, etc. À ce moment-là, ils ont disparu assez rapidement du jeu. Les Gilets jaunes, c'est leur enjeu. S'ils ne s'organisent pas, ils vont disparaître. Ça, c'est très clair, parce que le mouvement va s'essouffler naturellement, vont rester dedans quelques éléments un peu plus violents, un peu sur des formes d'action fortes. Évidemment, il va y avoir de la répression en face, et donc le mouvement va disparaître, comme ça le fera chaque fois. Donc, certains ont bien compris qu'il fallait s'organiser, et c'est ce qu'ils tentent de faire aujourd'hui. Évidemment, en introduisant cette logique, ça heurte une partie. Donc, en s'organisant, ils vont en perdre une partie. Il y a des gens qui ne suivront pas,
et
il y a des gens qui vont y rester.
Ils seront moins représentatifs.
Mais ils seront moins représentatifs, mais en tout cas, ils auront peut-être une identité un peu plus forte. Le deuxième élément qui va être un vrai problème pour eux, et ça, je ne sais pas s'ils vont être capables de le dépasser, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mouvement extrêmement hétérogène. Donc, tant qu'on est sur un mot d'ordre un peu large, tant qu'on dit on est contre la politique du gouvernement, ou on est pour plus de justice sociale, on peut intéresser beaucoup de monde.
C'est large, oui.
Par contre, quand on va commencer à venir très concrètement sur les questions, on va voir du désaccord. Parce qu'ils prétendent aujourd'hui être un mouvement non politique. Ils nous disent on ne veut pas de syndicats, on ne veut pas de partis, parce qu'on veut rester. Je lisais quelques interventions de certains des porte-paroles désignés. On est attaché à la neutralité politique. Mais quand même, enfin, on parle d'écologie, on parle de distribution de la richesse. Or ça, s'ils ne sont pas des sujets politiques, je ne sais pas ce qu'est un sujet politique. Et là-dessus, il va y avoir des désaccords extrêmement forts quand on va commencer à poser les sujets. Donc à ce moment-là, la sociologie du mouvement va changer. Ce ne seront plus les mêmes dedans. Et il va y avoir très vite quelque chose qu'on va s'apercevoir. C'est qu'il y a dans ce mouvement des gens extrémistes. On sait très bien qu'il y a des gens d'extrême droite, qu'il y a des gens d'extrême gauche. Et puis, il y avait des gens peut-être plus modérés qui n'avaient pas vu toute la... Et puis, quand ça va être rendu visible par les logiques de représentation, eh bien, à ce moment-là, il y a des gens qui vont quitter le mouvement. Donc, peut-être qu'ils vont arriver à se structurer, mais à ce moment-là, ce ne sera plus un mouvement large et qui prétend représenter grandement, mais qui va finir par lui-même se politiser et représenter une certaine ligne politique, ce qui lui permettra peut-être d'exister dans le paysage, mais pas en prétendant comme ça représenter le peuple comme une espèce de catégorie homogène, par opposition aux autres corps constitués qui seraient des intérêts particuliers. Et ça, ils vont être confrontés à ce problème-là.
Est-ce que c'est le signe d'un échec de notre modèle démocratique, quelque part ?
C'est tous les modèles démocratiques aujourd'hui sont secoués par ça. Hein. Donc on voit bien cette ligne qui est en train de se constituer. C'est quand même le thème d'actualité sur la montée du populisme. Et là, on retrouve ici cette volonté de recréer des clivages entre les élites et le peuple. Est-ce que ces mouvements vont permettre de recréer ce type de clivage ? Moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus complexe que ça. Mais oui, il y a une crise du politique parce que on est dans une recomposition des clivages qui est amorcée depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui touche assez lourdement et on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Hein, si on revient sur nos histoires de syndicats tout à l'heure, en fait, les syndicats, pour beaucoup d'entre eux, se reconnaissent assez bien dans des propos de hauts fonctionnaires, dans des propos de cadres en entreprise, etc., mais qui sont dits progressistes. Donc, il y aurait comme ça une espèce de frange progressiste, mais qui ne rentre pas dans les sociologies habituelles. Mais ça ne constitue pas aujourd'hui un clivage politique. Donc, toute la question, c'est est-ce qu'on va réussir à réactiver du clivage politique avec ça ou pas ? Alors, est-ce que c'est une défaillance du modèle politique ? Je ne suis pas sûr, parce qu'un monde politique, de toute façon, bouge. Il se recompose. Donc, ce qu'on est en train d'observer, c'est une des étapes, c'est un moment important de notre démocratie, avec une remise en cause de ces clivages. Un bon système politique n'est pas un système qui serait figé pendant 50 ou 100 ans. Et là, on est à un moment important. On sent bien qu'il y a une tension qui monte depuis des années. Là, on a un épisode qui le rend explicite. Eh bien, en allant un petit peu plus loin, on va voir si ça se recompose ou pas. S'il y a vraiment... C'est un des... On l'entend, ça aussi. Mais l'idée que finalement, il y avait déjà, lors de la dernière campagne, on a senti des rapprochements par moments entre l'extrême droite, l'extrême gauche, avec des points sur lesquels ils pouvaient s'entendre. Et certains sont passés d'un bord à l'autre. Et on voit bien que ce mouvement repose à nouveau cette question. Donc, est-ce que ça pourrait amener une espèce de recomposition un peu forte de notre panorama, de notre politique, autour de, finalement, cette espèce de défense du peuple et de rejet des institutions de l'Europe, etc., face à un camp qui se voudrait plus progressiste, pro-européen, peut-être. En tout cas, c'est une question qui se pose. Si on va vers ça, on aura un clivage assez fort et marqué en France.
Et comme on pouvait s'y attendre, ces bons vieux corps intermédiaires continuent de courir derrière les gilets jaunes. La CGT, par exemple, vient d'annoncer une grande journée de mobilisation le 14 décembre dans l'esprit des manifestations actuelles dont le syndicat assure partager la colère. Et ouais, merci à Rémi Bourguignon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.